Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les titres de ce journal, la République démocratique du Congo déploie ses militaires pour renforcer la sécurité totale au niveau de ses limites frontalières congolaises et zambiennes. Objectif, déloger l'armée zambienne qui a envahi le territoire congolais. 60% des Congolais pensent que le coronavirus est une petite maladie, tandis que 39% y croient. C'est le résultat d'une enquête de terrain menée par Target SRL dans 6 provinces de la République démocratique du Congo. Lancement cette semaine par le ministère de l'Éducation du Kasaï central du programme École à la radio pour permettre la continuité scolaire en ce temps où les écoles sont fermées dans tout le pays à cause de l'épidémie du coronavirus. Nous en parlons avec Monsieur Léon Toussoué qui est notre invité. Bienvenue à l'écoute de ce journal qui part du Tanganyika où les FARDC poursuivent leur déploiement dans le territoire de Moba. Plusieurs sources sur place affirment que l'armée de la République démocratique du Congo semble avoir opté cette fois pour une présence dans toutes les localités frontalières avec la Zambie. Le point avec Expedi Mwambamubi.
Depuis le début de leur déploiement au mois d'avril passé, les FARDC continuent de prendre position dans la quasi-totalité des villages frontaliers avec la Zambie. Confirmation avec Didier Mumbere, administrateur de territoire.
Nous sommes en train de déployer les militaires, renforcer la sécurité totale au niveau de nos limites frontalières congolaises et zambiennes, déployer les militaires au niveau de Muriro, à Kalubamba, à Libongo, à Kibanga, voire même à Kapingu, à Mwangi, à Musosa, même à Kabondo, du côté de Pweto, que notre population ne puisse pas vivre la paix au ventre.
Selon certaines sources, les unités déployées proviennent essentiellement de l'unité de réaction rapide de la 22e brigade ainsi que du 22e groupement naval. Au-delà du groupement de Moliro, les FARDC se déploient donc tout le long de la frontière avec la Zambie, y compris à Kapingu. Pour rappel, Kapingu, en 2007, avait également été envahi par les forces de sécurité zambiennes. Depuis, un flou artistique régnait sur cette localité. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Cap sur Bounia, où les postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda de Karombo et Goli dans le territoire de Mahagi sont fermés depuis ce jeudi matin. C'est à la suite de la manifestation d'hier des forces vives à ces endroits pour dénoncer la montée de l'insécurité dans cette entité où des meurtres des civils et incendies des maisons par les assaillants de la Codeco sont de plus en plus fréquents. Les manifestants conditionnent la réouverture de ces postes douaniers au rétablissement de la sécurité dans leur entité. Martial Kiza Biamungu.
Pas d'entrée ni sortie. Tous les bureaux de l'État sont fermés aux postes frontaliers de Karombo et Goli entre la RDC et l'Ouganda. Seuls des agents de la police des frontières et des services de renseignement sont autorisés à y rester. C'est l'image qu'on peut observer ce matin à ces deux endroits. Les forces vives de Mahagi, à la base de cette situation, expliquent que leur acte a une façon de mettre la pression sur le gouvernement central pour qu'il prenne ses responsabilités en mettant fin aux tueries des civils par les assaillants de la Codeco. Gédéon Oudaga, porte-parole de la société civile coordination de Mahagi, explique.
Nous ne voyons pas l'implication concrète du gouvernement congolais. Nous demandons le remplacement immédiat de tous les officiers militaires et policiers, ainsi que les responsables de renseignement de la province de Bitouri. Les journées d'île morte seront décrétées.
À Mahagi Centre, tous les bureaux des services de l'État et des institutions bancaires ont été contraints de fermer leurs portes ce matin. Les activités sont quasi paralysées. Une réunion entre les autorités locales et des représentants des forces vives est annoncée dans les prochaines heures. Les autorités provinciales ne se sont pas encore prononcées sur cette situation. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Haut-Tuélé pour vous dire que 6 éleveurs Mbororo ont été arrêtés hier à Nyangara au terme d'une réunion présidée par le ministre provincial en charge de la justice à l'intention de la société civile locale et du comité territorial de ces éleveurs nomades. Ils sont impliqués dans les incidents meurtriers du 9 mai dernier dans la localité Congo en groupement Lipombo situé à 30 km de Nyangara. À Isiro, les 6 Mbororo seront mis à la disposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Isiro pour la continuation de l'instruction. Les explications avec Jacques Mokonkoli.
C'est dans l'objectif de mener des investigations par rapport aux incidents meurtriers du 9 mai dernier qu'une délégation du gouvernement provincial du Haut-Ouélé séjourne depuis lundi dernier dans le territoire de Niangara. Ces incidents avaient coûté la vie à 3 personnes, dont 2 autochtones et un éleveur Mbororo. Suite à la récurrence des incidents sanglants, le gouvernement provincial a décidé de renvoyer les Mbororo de cette entité. Jean Guédia, ministre provincial en charge de la justice et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Ouélé.
Avec la population devient impossible. Étant donné que leur présence génère l'insécurité, ils doivent quitter la province du Haut-Ouélé pacifiquement pour aller ailleurs.
La société civile locale s'en réjouit puisque selon elle, les Mbororo sont source d'insécurité dans les milieux. Son président Dominique Bombe Wabombe explique.
Ils privent la population d'exercer leurs activités quotidiennes comme d'habitude et puis leur présence sème l'insécurité totale. Ils sont détenteurs des armes et après cela, ils ont commencé à créer des meurtres.
Par ailleurs, le ministre provincial en charge de la justice demande à la population de ne pas s'attaquer aux Mbororo et à ces derniers de ne pas se venger de leur hôte. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'activisme des Maïmaï constitue un blocage aux efforts d'éradication du phénomène pêche illicite sur le lac Édouard, côté congolais. Ce constat a été relevé hier mercredi par l'équipe conjointe de patrouille anti-pêche illicite. C'était lors de l'évaluation de cette opération, affirme le responsable de l'ONG Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, Fekopeilé, Josué Mukura, qui dit que cette situation affecte toutes les activités de pêche sur le lac, plaide pour la traque de ces maïmaï. Bernardin Nyangi.
Alors que les pêcheurs congolais jouissent d'au moins 70% de la superficie du lac Édouard, ils sont toujours tentés d'aller pêcher dans la zone frontalière avec l'Ouganda. La partie congolaise du lac Édouard étant devenue presque improductive suite à la recrudescence de la pêche illicite et l'activisme des Maïmaï qui insécurisent les pêcheurs. La nuit de lundi à mardi dernier, 15 pêcheurs congolais de Kavinyonge ont été arrêtés, torturés puis relâchés par les éléments de la marine ougandaise. Ils auraient été appréhendés dans les eaux territoriales ougandaises utilisant des matériel de pêche non autorisé dans ce pays. Le secrétaire exécutif de la FECOPI l'estime que la traque des Maïmaï serait un début de solution à ce problème. Josué Mukura.
La présence de ce civique Maïmaï à Kamikan cause un grand problème dans la partie sud-ouest. Là, la surpêche continue. Maintenant, les pêcheurs ont tendance de fuir et aller pêcher dans la zone transfrontalière. La première chose à faire, c'est traquer ce Maïmaï-là. La paix, la sécurité dans cette zone va permettre à ceux qui
Rappelons que depuis quelques mois, une équipe conjointe, Force Navale, Comité des pêcheurs et éco-garde de l'ICSN, mène la patrouille mixte contre la pêche illicite au lac Édouard. C'est dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne et l'UICN, Pays-Bas, Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, le phénomène Zabolo refait surface en Mbujima. Il s'agit des cas d'insécurité créés par un groupe de jeunes délinquants dirigés par un homme appelé Zabolo qui extorque en plein jour et même la nuit des biens des paisibles citoyens, mais plus particulièrement les femmes. Le dernier cas remonte à mardi dernier où une femme a vu son sac être arraché sur l'avenue Katomba dans la commune de Dulu. Le maire de la ville dit être au courant de la situation et envisage des stratégies avec les éléments de la police pour mettre fin à cette situation. Louis Dontumba Chapota a été joint par Esther Dalphine.
Je suis au courant, j'ai appris cette nouvelle il y a 2 jours quand il y a une vieille dame qui a été emballé dans une moustiquaire et j'étais sur l'avenue Monseigneur Kongolo. Quand j'ai cherché, on me dira qu'il y a des abolos qui ont commencé à ravir des sacs à main des dames qui tracassent la population. Et ces abolos-là avaient disparu un temps. On dit qu'ils sont rentrés. Alors, je suis en train de voir dans quelle mesure les traquer. On était en réunion avec les amis de la police. On s'est posé la question comment mettre la main sur ces gens-là. C'est un groupe de malfrats qui habiterait ce coin-là. Et la nuit inquiète la population. Ils volent parfois les armées, parfois ils font des vols simples et ils arrachent les sacs des gens, surtout des dames, à des heures avancées, hein, par exemple vers 20h, 20h30, dans certains coins de ce quartier, dans les coins obscurs. Donc ce sont ces gens-là qu'on appelle les abolos. Je suis en train de voir dans quelle mesure les traquer sérieusement.
L'évêque Pascal Mukuna vient d'être conduit à la prison centrale de Makala. Maître Richard Bondo, avocat de l'évêque Pascal Mukuna, dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation précoce de son client pour une expertise médicale. Il s'interroge sur la réparation du préjudice si cette expertise se révélerait négative. Richard Bondo est au micro de Jeff Ngoy.
Ils disent qu'il faut, avant qu'il ne rentre chez lui, ils doivent le mettre sous mandat d'arrêt provisoire pour qu'on vienne expertiser physiquement son corps par rapport aux accusations sur viol de cette dame. Et nous pensons que la confrontation a démontré que la femme est téléguidée. On parle de viol, menace de mort, en soi-disant rétention. Il va rester au cachot pour que M. Olengankoy, qui est cité dans le dossier, soit entendu. Dans ce dossier, il y a même un très haut magistrat, très très haut magistrat qui est cité. Entendu, mais j'ai senti comme s'ils ne savent pas le faire, s'ils ne veulent pas. J'ai lu entre les lignes. Mais mon problème, c'est que c'est très précoce, parce que eux-mêmes décident de l'expertise. Entre-temps, ils l'avaient. On va l'expertiser au cachot. Et si l'expertise est négative, ce sera quoi? Qui va réparer?
Covid-19, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas confirmés est de 1242 au total. Il y a eu 50 décès et 157 personnes guéries, 331 cas suspects en cours d'investigation, 73 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 9 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, 886 patients en bonne évolution, 192 échantillons testés en date du 12 mai 2020. Les 7 provinces touchées sont Kinshasa avec 1162 cas, Congo Central 55 cas, Okatanga 10 cas, Nord Kivu 8 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 1 cas. Je le disais en titre, près de 60% des Congolais interrogés estiment que la maladie à coronavirus n'est pas grave. Par contre, 39% y croient. C'est le résultat d'une enquête de terrain menée par Target SRL dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Nord Kivu, Sud Kivu et le Haut-Katanga. Selon les résultats de cette étude, qui s'est basée sur un échantillon de 1000 personnes, beaucoup de Congolais disent entendre parler des morts sans toutefois les voir. 20% des personnes interrogées pensent que la COVID-19 sévit plus à l'étranger et 12% estiment que les médias et les politiciens dramatisent la situation. Cependant, 70% des Congolais interrogés sont satisfaits des mesures prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Quelles leçons peut-on tirer des résultats de cette enquête? Réponse avec Serge Mumbu, directeur général de Target SRL, joint par Jean-Marc Matouaki.
Ce qui est vrai, c'est que le coronavirus existe et que c'est mortel, c'est une pandémie qui a des dangers. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais si la population ne semble pas y croire, ne semble pas percevoir, peut-être que dans la manière de communiquer, il faudrait bien revoir un peu la communication, revoir un peu la manière de pouvoir parler à la population, lui faire comprendre les messages. Je pense que c'est pas tout le monde qui est nécessairement instruit, qui comprend le français. Donc, voir dans quelle mesure utiliser les langues locales et parler de la proximité. Donc, l'idée générale, c'est de revoir un peu la stratégie de communication, la stratégie de sensibilisation pour qu'elle soit beaucoup plus proche de la population.
Au sud Kivu, l'évaluation de l'enseignement à distance à mi-parcours est satisfaisante en cette période sanitaire liée au Covid-19. Le chargé de l'éducation à l'UNICEF Bukavu atteste que plusieurs élèves suivent attentivement les cours dispensés à la radio et à la télévision locale et nationale. Il soutient que les moyens mis en place par l'UNICEF pour accompagner l'enseignement à distance sont bénéfiques aux enfants. Emmanuel Chibangu, en charge de l'éducation au bureau de l'UNICEF Bukavu, au micro de Jean Kassami.
Au sud Kivu, nous avons un programme spécial et spécifique. Les enfants sont en train de suivre cet enseignement à distance de 8h30 à 12h juste par les radios et les télévisions de la province. Mais dans ces programmes, nous avons de 8h30 jusqu'à 10h juste diffusion des leçons par l'émission École chez nous, qui est la production du ministère de l'EPST. Et à 10h05, tous les enfants avec leur radio basculent sur la radio Okapi pour suivre l'émission Okapi École. Et à 11h juste, ils rentrent encore sur les chaînes locales pour continuer encore à suivre l'émission École chez nous. Donc notre programme est vraiment riche et tous les enfants sont vraiment occupés et ils suivent des bons programmes, à la fois avec la radio Okapi qui nous donne de très bonnes leçons de qualité et aussi avec l'émission École chez nous qui est une production du ministère de l'Éducation au Sud Kivu.
Covid-19 toujours, fin brusque du championnat national de football en République démocratique du Congo pour la saison sportive 2019-2020, une conséquence liée à la pandémie de la maladie du coronavirus. La Fédération congolaise de football FECOFA, qui s'était réunie en assemblée extraordinaire hier mercredi, a pris la décision d'arrêter toutes ses compétitions à travers le pays, consacrant par la même occasion tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, champion du Congo. Les détails avec Kanish Mukongo.
C'est le classement provisoire de la Ligue nationale de football UNAFOOT qui a été homologué par la FECOFA sans que tous les clubs ne jouent le même nombre de matchs. Déclaré champion du Congo, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi termine en tête avec 53 points pour 20 matchs livrés. Les Corbeaux sont à 11 longueurs de l'AS Vita Club de Kinshasa, classé deuxième avec 42 points pour 21 rencontres. Ils sont qualifiés d'office pour la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. L'autre qualifié pour l'Afrique est l'AS Maniema Union de Kindu, classé troisième avec 40 points pour 19 matchs. Si TP Mazembe Vita Club, Maniema Union sont qualifiés en compétition africaine interclub pour avoir occupé le top 3 du classement. Par contre, Darren Club Motema Pembe DCMP de Kinshasa, quatrième avec 38.19 matchs, a été coopté pour représenter la RDC en Coupe de la Confédération en lieu et place du vainqueur de la Coupe du Congo, compétition annulée par la FECOFA suite à des contraintes liées à la pandémie de la maladie coronavirus. Les plus déçus dans cette décision sont OC Bukavu d'Ao du Sud Kivu et AS Nyuki de Butembo du Nord Kivu, dernier classé avec 13 points pour l'un et 9 pour l'autre, qui seront relégués en deuxième division. Pourtant, ces derniers n'ont pas eu la chance de livrer tous les matchs. À noter que la jeunesse sportive de Kinshasa JSK et Étoile Jaune de Lubumbashi, deux formations de la division 2 du championnat national, sont promues à la Ligue 1 pour la saison sportive 2020-2021 qui démarre au mois d'août prochain.
Rendons-nous à l'Équateur où le FCC, Front commun pour le Congo, appelle à la paix sociale et à l'unité provinciale. Il met aussi en garde contre ce qu'il qualifie de déstabilisation des institutions provinciales. Déclaration faite hier mercredi à Mbandaka. Elle a été lue par le coordonnateur adjoint Thomas Kendewa. Suivez un extrait de cette déclaration politique choisie par Paul-Richard Malengel.
Nous, les FCC Équateur, demandons à chacune de ses forces vives d'apporter respectivement sa pierre constructive orientée vers le développement au lieu de se soumettre aux tireurs de ficelles qui ne visent que leurs intérêts égoïstes au détriment de la province. Nous remercions et soutenons la position de Mgr l'archevêque Ernest Mboko, invitant ainsi toutes les forces vives de la province au respect des autorités établies, à la dignité, à l'unité et à la réconciliation de l'Équateur. Aux filles et fils de l'Équateur, nous les invitons à la cohésion, main dans la main, à soutenir et accompagner les institutions de la province, puisque nul n'ignore que notre province est à la traîne à cause des crises institutionnelles à répétition.
Actualité internationale.
Vaccin contre la Covid-19, Sanofi avantage les États-Unis et crée la polémique. Le géant pharmaceutique compte distribuer en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin contre la Covid-19, sauf si l'Union européenne se montre aussi efficace pour financer son développement inacceptable. Inacceptable donc, a dénoncé le gouvernement français. Le géant français de la pharmaceutique avait prévenu la veille, par la voix de son directeur général, qu'il distribuera en premier aux États-Unis un éventuel vaccin. Le gouvernement américain a le droit aux plus grosses précommandes car il partage le risque des recherches et a investi pour essayer de protéger sa population, a-t-il déclaré.
L'invité.
Le ministère de l'Éducation du Kasaï central a lancé cette semaine le programme École à la radio pour permettre la continuité scolaire en ce temps où les écoles sont fermées dans tout le pays à cause de l'épidémie du coronavirus. Léon Toussoué explique que ce sont 12 radios émettant dans la province qui vont relayer ce programme du lundi au vendredi à l'intention des élèves du primaire et du secondaire. Léon Toussoué est interrogé par François Kadima.
Monsieur Léon Toussoué, bonjour.
Bonjour François.
Depuis que l'école est interdite, il y a un système qui est mis en place, c'est la radio-école. Dans la province scolaire centrale, le ministre provincial de l'Éducation a lancé officiellement ce programme. Alors comment il va se dérouler pour la province éducationnelle Kasaï central 1?
C'est une initiative du ministère de l'EPST qui a obtenu l'adhésion de la radio onisienne et aussi le financement de l'UNICEF. Les partenaires ont bien voulu accompagner le gouvernement pendant cette période de confinement, qui se soucie de la continuité des études de nos enfants pendant cette période de confinement. Les moments sont durs, c'est vrai. Alors, au niveau de la province, parce que c'est depuis le 27 avril que le ministre de l'EPST au niveau national a lancé ce programme officiellement. C'est à cette occasion-là qu'il a validé aussi les livrets des élèves, les livrets d'exercice que le ministère a élaboré avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Ce sont des livrets qui contiennent des exercices pour tous les niveaux, le niveau maternel, primaire et secondaire. Et pour chaque niveau, on a considéré chaque degré. Chaque degré à ces séries d'exercices pour toutes les disciplines. Alors les leçons qui sont diffusées vont s'appuyer sur ces exercices-là de manière à permettre aux enfants qui suivent ces leçons à la radio de s'appliquer avec l'appui de leurs parents ou de leurs aînés, voire même de leurs enseignants. Nous allons diffuser les leçons qui sont préparées, enseignées par nos enseignants de la province devant des échantillons des élèves.
Vous parlez de 12 chaînes de radio. Comment ça va se passer?
Oui, pour ce qui nous concerne, les leçons seront diffusées sur toutes les chaînes avec un même horaire, c'est-à-dire du lundi au samedi. Les leçons passeront chaque jour de 9h à 9h50. Ça, c'est le matin. Et la rediffusion, ça sera de 18h à 18h50. Et cela chaque jour. Et cela va nous permettre de faire bénéficier à tous les enfants de ces leçons-là. On va prendre chaque jour, on prend peut-être aujourd'hui, on peut faire donner une leçon du niveau primaire. Aujourd'hui, on commence par le degré élémentaire. Demain, on va prendre une leçon du degré moyen. Et après, demain, on prend une leçon du degré terminal. Et aussi, on commence la leçon de 7e et 8e année. On prend des premières et deuxièmes années des humanités et troisième, quatrième des humanités qui sont des classes de cinquième et sixième année. Cela nous permettra de faire bénéficier à tous les enfants ces séances de révision des leçons qui se passent à travers nos médias.
La province est grande, on a 5 territoires. Pour la province éducationnelle de Kassai Centrale 1, comment vous allez faire pour que tous les enfants suivent ces enseignements?
Avec la coordination de l'UNICEF, les radios, les responsables des différentes chaînes de radio se sont retrouvés autour du ministre provincial des communications. Ils ont choisi un leader, c'est la Fondation Hirondelle, qui va enregistrer des leçons et qui va les partager avec toutes ces chaînes-là, avec le même horaire. Si lundi, de 9h à 9h50, il y a une leçon qui passe, c'est la même leçon qui doit passer sur toutes les chaînes. De telle manière que l'enfant qui tombe sur telle chaîne ou telle autre trouve la même matière à cette heure-là.
Alors, par rapport au choix des enseignants qui doivent mener ces matières, comment vous faites la sélection?
La commission pédagogique est confiée aux inspecteurs, principaux adjoints de l'UPP. Ceux-là travaillent avec les inspecteurs chefs de poule de la ville, tant du primaire que du secondaire. Les inspecteurs ont leurs itinérants. Ce sont les itinérants qui font la ronde de toutes les écoles, qui ont l'attitude d'apprécier, de visiter les enseignants et de les apprécier. Ils connaissent les meilleurs enseignants. Ce sont eux qui ont sélectionné les enseignants à chaque niveau et pour chaque discipline en ce qui concerne les secondaires.
Monsieur Léon Tosso sur Radio Capi vous dit merci.
Merci beaucoup François, c'est un honneur pour moi de communiquer avec tous les parents.
Fin de cette session d'information de la mi-journée sur Radio Capi. Merci à tous de l'avoir suivi. Polydor Basunga a été à la mise en onde. Élisée Chikota à la coordination. Pelé Kipela Mondo à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Ne partez pas, nos programmes se poursuivent.